Edmond et Jules de Goncourt, La fille Elisa, chapitre 1er. La femme, la prostituée condamnée à mort, était la fille d'une sage-femme de la chapelle. Son enfance avait grandi dans l'exhibition intime et les entrailles secrètes du métier. Pendant de longues maladies, couchée dans un cabinet noir attenant à la chambre au spéculum, le cabinet de visite de sa mère, elle entendit les confessions de l'endroit. Tout ce qui se murmure dans les larmes, tout ce qui parle haut dans un aveu cynique, arriva à ses jeunes oreilles. La révélation des mystères et des hontes du commerce de l'homme et de la femme de Paris vint la trouver dans sa couchette, presque dans son berceau. La croyance naïve de la petite fille au nouveau-né trouvée sous le buisson de roses de l'enseigne maternelle fut emportée par des paroles cochonnes, instruisant son ignorance avec d'érotiques détails des matérialités de la procréation. Du milieu de la nuit de son cabinet, l'enfant alité, l'enfant à la pensée inoccupée, rêvassante, assista aux aventures du déshonneur, aux dames rames des liaisons cachées, aux histoires des passions hors nature, aux consultations pour les maladies vénériennes, à la divulgation quotidienne de toutes les impuretés salissantes, de tous les secrets dégoûtants de l'amour coupable et de la prostitution. Une abominable vie que la vie de la petite Elisa chez sa mère. L'effort de tirer des enfants, la montée quotidienne de 50 étages, les sorties de jour et de nuit par tous les temps que Dieu fait, l'éveil, la privation de sommeil, les gardes dans les logis sans feu, la peine et l'éreintement d'une existence surmenée, exaspéraient l'humeur de la sage-femme, la tenaient en l'irritation grondante des gens qui triment dans un métier d'enfer. Puis la copieuse nourriture et les verrées de vin, à l'aide desquelles la créature du peuple cherchait la réparation de ses forces pour l'accouchement en expectative, faisait cette irritation prompte au gifle. Parfois, il y avait bien dans une tape l'attendrissement colère du cœur de cette femme, revenant à la fois apitoyée et enragée dans de ces spectacles de misère comme seules les grandes capitales en recèlent dans leur profondeur cachée. « Oui !» s'exclamait la sage-femme en rentrant comme un ouragan. « Oui, mes enfants !» De la voliche disjointe, c'est les murs et de la terre battue. Voilà le plancher. Là-dessus, pour le mari et la femme, un tensure de bois avec autour, comme qui dirait le fond d'une bière, quatre planches pour la pudeur et que les enfants ne voient pas. 7 enfants, s'il vous plaît, sur 2 méchantes paillasses, 3 à la tête, 3 aux pieds. Ceux-là, les mignons, ne pouvant allonger leurs petites jambes par rapport au panier du dernier-né. Et rien de rien là-dedans. Un peigne, une bouteille, un trognon de pain sur une table bancroche, après laquelle, oh, j'en ai encore les 100 tournés, grimpait à tout moment un rat gros comme un chat qui emportait son chicot de pain. C'est dans les baraquements du clos Saint-Lazare, là, vous savez, où il y a eu tant de vieilles maisons démolies. Puis ne voilà-t-il pas qu'un sacré polisson de salopien de singe, oui, le gagne-pain du petit Savoyard de la chambre d'à côté, ne voilà-t-il pas avec des plaintes, des gémissements et toutes les satanées inventions de ces farceurs d'animaux qui se mettent à imiter le travail de ma femme en douleur, et qu'à la fin des fins, ils vous pissent par une fente sur les mignons. Une layette, que vous dites, une layette, oh, je vous en souhaite, c'est mon mouchoir de poche qui a été la layette. Et quand le nouveau-né, il m'a fallu le laver, une poignée de paille arrachée dans le creux d'une paillasse, c'est avec ça que j'ai fait tiédir l'eau. Le plus souvent, la cause des emportements de la mère d'Elisa était autre. Les accouchements du bureau de bienfaisance à 8 francs, les accouchements de la maison à 50 francs, y compris les 9 jours de traitement, ne couvraient pas toujours les dépenses de l'entreprise. dans l'année, presque tous les mois, revenait des semaines ou des billets, plusieurs fois renouvelés, se trouvait chez l'huissier, où le crédit s'arrêtait chez le boucher, la fruitière, le charbonnier. Ces semaines-là, le portier avait l'occasion de voir redescendre, toute pâle et se tenant à la rampe, la jeune fille montée quelques heures avant chez la sage-femme. De ce quantième du mois commençait pour la misérable femme les jours inquiets, les jours anxieux, les jours tremblants du crime, les jours où, dans le regard qui s'arrêtait sur elle, elle percevait un soupçon, où, dans la parole qui sur son passage s'occupait d'elle, elle flairait une dénonciation, où la lettre qu'on lui remettait lui faisait trembler les mains, comme à la réception de la lettre de mort de l'avorté. Des jours, enfin, où chaque coup de sonnette lui semblait le coup de sonnette du chien du commissaire. Ce souvenir obsédant, elle voulait qu'il cessât, au moins pendant quelques heures, d'être toujours là présent et menaçant dans sa mémoire, et elle buvait, et ses noires ivresses finissaient toujours par des violences. Mais ces coups encore, Elisa les préférait aux nuits passées avec sa mère. Alors que la pauvre maison avait toutes ses chambres prises par les pensionnaires, la sage-femme, enchâssée de son lit, partageait celui de son enfant. Des cauchemars, des sursauts d'effroi, des cris de terreur, le dramatique et haletant somnambulisme du remords dans une nature apoplectique, tenait jusqu'à l'aube la fillette éveillée avec le frissonnant récit par cette bouche qui dormait de détails d'agonie inoubliable et de suprêmes paroles de jeune mourante. Des nuits au bout desquelles, à moitié étouffée par l'étreinte de ce gros corps cramponné à son petit corps, comme si l'invisible main de la justice tirait la sage-femme à bas du lit, Elisa se levait, gardant au fond d'elle une secrète épouvante de sa mère. Dans l'espace de moins de 6 années, de 7 à 13 ans, Elisa avait eu 2 fois la fièvre typhoïde. Un miracle qu'elle fût encore en vie. Longtemps, dans le quartier, sur sa petite tête penchée, descendit l'apitoiement qui plane au-dessus des jeunes filles destinées à ne pas faire de vieux os. Elle se rétablissait cependant tout à fait, mais de cette insidieuse et traîtresse maladie que les médecins ne semblent pas chasser tout entière d'un corps guéri, et qui, après la convalescence, emporte à celui-ci les dents, à celui-là les cheveux, laisse dans le cerveau de ce dernier les vêtements, Elisa garda quelque chose. Ses facultés n'éprouvèrent pas une diminution. Seulement, tous les mouvements passionnés de son âme prirent une opiniâtreté violente, une irraison emportée, un affolement, qui faisait dire à la mère de sa fille qu'elle était une bernoque. Bernoque était le nom dont la sage-femme baptisait les lubies fantasques, étonnant le droit bon sens de sa parfaite santé, les colères blanches dont l'enragement lui faisait parfois peur. Tout enfant, les mains qui la fouettaient, Elisa les mordait avec des dents qu'on avait autant de peine à desserrer que les dents d'un jeune bouledogue entré dans de la chair. Plus tard, la violence que se faisait la grande fille pour ne pas rendre coup pour coup à sa mère la mettait dans un tel état de furie intérieure qu'elle battait les murs comme si elle voulait s'y fracasser le crâne. Mais ses colères n'étaient rien auprès des entêtements, des concentrations silencieuses, des obstinations ironiques dont sa mère ne pouvait jamais tirer une parole avant ayant l'apparence de la soumission. Sa fille, la sage-femme, la sachant une coureuse de barrières, une effrénée de danse, une baladeuse donnant rendez-vous à tous les jeunes garçons de la rue qui passaient à tour de rôle les uns après les autres pour ses amants, la sage-femme lui répétait qu'elle ne s'avisa pas de faire un enfant. « Savoir !» lui répondait la jeune fille, avec un air de défi, a donné à la mère envie de la tuer. Un caractère intraitable, un être désordonné dont on ne pouvait rien obtenir, sur lequel rien n'avait prise. En même temps, une nature capricieuse et mutable, où la répulsion d'Elisa pour sa mère se transformait certains jours en une affection amoureuse, en un culte adorateur de sa beauté restée grande encore, en une tendresse filiale, se témoignant avec ses caresses de petite fille qui se promènent sur le décolletage de leur mère parée pour un bal. Aussi, brusquement, se changeaient en antipathie les préférences de ce cœur, ainsi que le témoignaient les paroles échappant à l'habitué de bal public, montrant ses entrevues avec ses danseurs comme des rencontres le plus souvent taquines et batailleuses des amours pleines de disputes et de coups de griffe. Les hauts et les bas des disputes de l'humeur d'Elisa semblaient se retrouver dans le jeu des forces de son corps et les fluctuations de son activité. Un jour, c'était une rage de travail, un lavage à grandes eaux, un balayage fougueux de tout l'appartement, retentissant de coups de balai. Puis, les jours d'après, les semaines suivantes, un engourdissement, une torpeur, un cassement de bras et de jambes, une paresse qu'aucune puissance humaine n'avait le pouvoir de secouer. Entre la sage-femme et Elisa, parmi les nombreux sujets de conversation propres à les mettre aux mains, un sujet plus particulièrement amenait des scènes quotidiennes dans lesquelles la rébellion muettement gouailleuse de la fille trouvait, au dire de la mère, le moyen de faire sortir un sein de ses gonds. Malgré les duretés, les alarmes continuelles du métier, la sage-femme avait l'orgueil de sa profession. Elle se sentait fière du rôle qu'elle jouait à la mairie dans les déclarations de naissance. Elle se gonflait de cette place d'honneur donnée à ses pareils par les gens du peuple dans les repas de baptême. Elle goûtait encore la popularité de la rue où les marchandes qu'elle avait délivrées, où les filles de ces marchandes qu'elle avait mises au monde et accouchées, où les enfants, les mères, les grands-mères, trois générations sur le pas des portes, lui criaient « Bonjour » avec un « Maman Alexandre », familièrement respectueux. Son rêve était de voir sa fille lui succéder, la remplacer, la perpétuer. La fille, quand elle se donnait la peine de répondre, disait qu'elle n'avait pas la caboche faite pour y faire entrer des livres embêtants. Elle ne trouvait pas non plus rigolo de voir à tout moment comme ça des oreillers retournés par les doigts crispés de l'éclampsie. Elisa montrait enfin la résolution arrêtée de se faire assommer plutôt que de prendre l'état de sa mère. Ainsi, pour la petite fille, l'initiation presque dès le berceau à tout ce que les enfants ignorent de l'amour. Plus tard, quand Elisa fut mise 3 ans chez les dames de Saint-Ouen, la fillette, rentrant le matin de ses congés, était souvent, les jours d'hiver, obligée de démêler, sur le pied du lit de sa mère, son petit manteau du pantalon d'un chantre de la chapelle de la maternité. Oh, une vieille liaison à laquelle l'ancienne élève sage-femme était restée fidèle. Plus tard encore, la jeune fille avait sous les yeux, jour et nuit, l'exemple que lui montrait sa vie de bonne et de garde-malade près de toutes ses filles mères. Chaque printemps, pour se porter bien et être belle toute l'année, une femme venait se faire soigner, saigner chez Madame Alexandre. Était-ce une vieille tradition médicale conservée par des bonnes femmes de la campagne, mêlée d'un rien de superstition religieuse? La femme arrivait toujours présenter son bras à la lancette, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Cette femme était une fille d'une maison de prostitution de la province qui, dans le temps, lors d'une courte domesticité dans la capitale, avait accouché en cachette chez la sage-femme. Toutes les fois qu'elle venait à Paris, la Lorraine restait 8 jours pour les commissions et les affaires de la maison, 8 jours où elle logeait chez Madame Alexandre, comme elle aurait logé à l'hôtel. La trop bien portante provinciale qui était sur pied le lendemain de sa saignée, qui s'ennuyait de ne rien faire, devenait tout le long des journées qu'elle n'était pas dehors l'aide d'Élisa, se chargeant de la bonne moitié de sa tâche, ne craignant pas de mettre la main à tout. Quelquefois, le soir, elle emmenait Élisa au spectacle. Elle riait toujours, la Lorraine, et ses paroles, avec l'accent doucement traînant de son pays, prenaient la confiance des jeunes comme avec de la glu. Elle ne partait jamais sans faire un petit cadeau à Élisa, qu'il avait prise en amitié, et tous les ans, voyait arriver avec une certaine satisfaction le jour de la Saint-Valentin. Le soir de la saignée de la Lorraine, au sortir d'une scène abominable avec sa mère, Élisa, en bordant le lit de la femme, laissait jaillir en phrases courtes et saccadées la détermination secrète et irrévocable de sa pensée depuis plus de 6 mois. Elle en avait plein le dos de l'existence avec sa mère. L'ouvrage du bazar était trop abîmant. Elle ne voulait pas devenir une tire-enfant. Voici bien des semaines qu'elle l'attendait. C'était fini, elle avait pris son parti de donner dans le travers. Elle allait partir avec elle, si elle ne l'emmenait pas. Elle entrerait dans une maison de Paris où, la première venue, s'entendre avec sa mère, c'était vouloir débarbouiller à mort. Elle se sentait par moments la tête évaporée. Elle connaissait bien un garçon qui avait un sentiment pour elle, mais ses amis qui s'étaient aménagés avec des amants, elle ne les trouvait pas trop esclaves. Elle aimait mieux être comme la Lorraine. Elle aurait du plaisir à se voir à la campagne, et au moins là, elle pourrait dormir tout plein. « Ah !» fit la Lorraine un peu étonnée, mais au fond très enchantée de la proposition. Elle n'avait pas l'habitude de faire de telles recrues. Et après s'être assurée qu'Élisa avait plus de 16 ans, lui avouait qu'elle ne demanderait pas mieux, mais qu'elle craignait que sa mère fît quelque esclandre chez le commissaire. « N'ayez pas de crainte, maman. Elle ne mettra jamais la police dans ses affaires, et pour cause. Elle me croira chez un de mes danseurs de la boule noire. Ce sera tout. » Puis Élisa serait à la Lorraine, craignant au fond de perdre sa saigneuse, qu'il y avait moyen d'arranger les choses, de manière que sa mère n'eût pas le moindre soupçon pour son compte. Élisa décamperait quelques jours avant sa sortie. La Lorraine se ferait reconduire par la sage-femme au chemin de fer de Mulhouse, et retrouverait sa compagne de voyage seulement à la première station. Les deux femmes convenaient du jour de leur départ, et la fille disparaissait de la maison maternelle le lendemain de cette soirée. À la descente du chemin de fer, Élisa montait avec sa compagne dans un omnibus qui la promenait le long de maisons noires par des rues interminables. Enfin, l'omnibus, déchargé de ses voyageurs, prenait une ruelle tournante dont la courbe semblable à celle d'un ancien chemin de ronde contournait le parapet couvert de neige d'un petit canal gelé. La voiture avançait péniblement au milieu d'une tourmente d'hiver à travers laquelle, une seconde, vaguement, Élisa aperçut, flagellé par les rafales de givre, un grand Christ en bois aux plaies saignantes que l'on entendait geindre sous la froide tempête. Quelques instants après, au loin, dans un espace vague, au-dessus de l'unique maison bâtie en cet endroit, Élisa voyait une lumière rouge. En approchant, elle reconnaissait que c'était une grande lanterne carrée, qu'elle s'étonnait, quand elle fut à quelques pas, de trouver défendue contre les pierres des passants par un grillage qui l'enfermait dans une cage. Élisa était devant la maison à la lanterne rouge, qui s'affaissait ainsi que la ruine croulante d'un vieux bastion, et dont la porte, fermée et verrouillée, laissait filtrer par l'ouverture d'un judas une lueur pâle sur la blancheur glacée du chemin. Le conducteur s'arrêtait et, sans descendre, tendaient leur mal aux deux femmes. Cela fait, ricanant et goguenardant, le grand Lolo, dit le tombeur des belles, foya du haut de son siège les deux voyageuses d'un petit coup de fouet d'amitié. Au petit jour, le surlendemain de son arrivée, Elisa était éveillée par le bruit d'un cheval sous sa fenêtre. Elle se levait en chemise et, avec un peu peureusement, allait regarder, par l'entrebâillement d'un rideau, ce qui se passait dans la cour. Dans le brouillard blanc du matin, un gros jeune homme, la blouse bleue sur des vêtements bourgeois, dételait le cheval d'un tape-cul de campagne, en causant avec la maîtresse de maison ainsi qu'avec une vieille connaissance. « Oh, le carcan m'a rudement mené !» disait-il en promenant une main comme une éclenche de mouton sur la croupe de la bête. « Oui, la mère, oh, il fume comme le cuveau de votre lessive !» Et comme la vieille femme s'apprêtait à prendre le cheval par la bride, « Merci, oh, pas besoin de vous, on connaît le chemin de l'écurie. Et il y a du nouveau à la maison, hein, la grosse mère ?» Elisa s'était donnée au premier venu. Elisa s'était faite prostituer simplement, naturellement, presque sans un soulèvement de la conscience. Sa jeunesse avait eu une telle habitude de voir dans la prostitution l'état le plus ordinaire de son sexe. Sa mère faisait si peu de différence entre les femmes en carte et les autres, les femmes honnêtes. Depuis de longues années, en sa vie de grande garde-malade près des filles, elle les entendait se servir avec une conviction si profonde du mot « travailler » pour définir l'exercice de leur métier, qu'elle en était venue à considérer la vente et le débit de l'amour comme une profession un peu moins laborieuse, un peu moins pénible que les autres, une profession où il n'y avait point de morte saison. Les coups donnés par sa mère, les terreurs des nuits passées dans le même lit, comptaient pour quelque chose dans la fuite d'Elsa de la chapelle et son entrée dans la maison de Bourlemont. Mais au fond, la vraie cause déterminante était la paresse seule. Elisa en avait assez de la laborieuse domesticité que demandaient les lits, les feux, les bouillons, les tisanes, les cataclasmes de quatre chambres, presque toujours pleines de pensionnaires. Et le jour où elle succombait sous cette tâche de manœuvre, regardant autour d'elle, elle se sentait également incapable de l'application assidue qu'exige le travail de la couture ou de la broderie. Peut-être y avait-il bien dans cette paresse un peu de la lâcheté physique qui, chez quelques jeunes filles, persiste toujours après la formation de la femme, pendant quelques années les prive, les malheureuses, quand elles sont pauvres, de toute la vitalité des forces de leur corps, de toute l'activité obligée de leurs doigts. La paresse est la satisfaction d'un sentiment assez difficile à exprimer, mais bien particulier à cette nature portée au cou de tête, l'accomplissement d'une chose violente, extrême, ayant et le dédain d'une résolution contemplative du « qu'en dira-t-on » et le caractère d'un défi, voilà les deux seules raisons qui avaient métamorphosé Elisa si soudainement en une prostituée. Il n'y avait en effet chez Elisa ni ardeur lubrique, ni appétit de débauche, ni effervescence des sens. Les appréhensions qu'avait bien souvent laissé échapper la sage-femme sur les suites des rapports de sa fille avec ses danseurs de bal public, et que celle-ci, par un esprit de contrariété vraiment diabolique, s'amusait à tenir continuellement dans l'éveil, dans la peur de la réalité redoutée, n'avait pas lieu d'exister. Elisa était vierge. Oh, une innocence entamée par le corrupteur spectacle de l'intérieur de sa mère, par la fréquentation de sales bals de barrière. Mais enfin, si l'occasion de fauter, ainsi que par la langue du peuple, ne s'était pas présentée, Elisa n'avait pas été au-devant, et son corps demeurait intact. Il arrivait alors que le doux honneur de ce corps, que sa virginité devenait en cette maison, pour Elisa, pendant 36 heures, un tracas, un tourment, un sujet du moi tremblant, la tare d'un secret vice rédhibitoire qu'elle s'ingéniait à cacher, à dissimuler, à dérober à la connaissance de tous, peureuse de se trahir, craignant que la divulgation de sa chasteté n'empêchât son inscription. Et la fille vierge, en son imagination, se voyant ramenée chez sa mère, venait de jouer avec le hobereau campagnard une comédie de dévergondage propre à le tromper, à lui donner à croire que la novice était déjà une vieille recrue de la prostitution. Elisa se voyait délivrée de sa mère. Sa vie de chaque jour était assurée. Le lendemain, oh, cette préoccupation de l'ouvrière. Elle n'avait pourtant point y songé. Les hommes qui venaient dans la maison ne battaient pas les femmes. Aucune de ces « dames » entre guillemets ne lui cherchait misère. Monsieur et madame semblaient de bonnes gens. Elle était bien nourrie. Au bout de journées sans travail, elle avait des tranquilles soirées de paresse, pareilles à celles-ci. Au dehors, aucun bruit, la paix d'un quartier mort, le silence d'une rue où l'on ne passe plus, la nuit tombée. Au dedans, l'atmosphère tiède d'un poêle chauffé à blanc, où l'humidité chaude de linge séchant sur les meubles se mêlait à l'odeur fade de châtaigne bouillant dans du vin sucré. Une chatte pleine mettant un rampement noir sur un tapis usé. Des femmes à moitié endormies dans des poses de torpeur sur les deux canapés. Monsieur, avec son épaisse barbiche aux poils tors et gris, dans son gilet aux manches de futaine, une petite casquette à la visière imperceptible enfoncée sur sa tête jusqu'aux oreilles, les mains plongées dans les goussets de son pantalon, les pouces en dehors, regardant bonifacement de ses gros yeux, sillonnés de veines variqueuses, les illustrations d'un volume des crimes célèbres que lisait le fils de la maison. Le fils de la maison, oh, un joli jeune homme pâle aux pantoufles en tapisserie, sur lesquels était brodée une carte représentant un œuf de cœur. Un joli jeune homme, pâle, si pâle que papa et maman l'envoyaient coucher 9 heures sonnantes. Et comme fond du tableau, dans une robe de chambre d'homme à carreaux rouges et noirs, madame, la grasse et bedonnante madame, occupée à se rassembler, à se ramasser, repêchant autour d'elle sa graisse débordante, calant avec un rebord de table des coulées de chair flasque. Madame, toute la soirée, remontant ses reins, avachie d'une main, cramponnée au dossier de sa chaise avec des « Oh !» en gémissant et des « Mon doux Jésus !» soupirait par une voix à la note cristalline et fêlée d'un vieil harmonica. Pendant que, de loin en loin, la chute sur le parquet d'une de ces galoches à semelles de bois faisait un flac qui était là à la plate et maçonnerie de ses heures repues et sommeillantes. Les lieux mêmes, ce faubourg reculé, cette construction renfrognée, perdaient de leur horreur auprès d'Elisa. Elle ne les voyait plus avec les yeux un peu effrayés du jour de son arrivée. Le bourgeonnement des arbustes, la verdure maraîchère, sortant de dessous la neige avec la fin des grands froids, commençait à rendre aimable cette extrémité de ville qui semblait un grand jardin avec de rares habitations semées de loin en loin dans les arbres. La maison, elle aussi, en dépit de son aspect de vieille fortification, avait pour ses habitantes une distraction, un charme, une singularité. Des battements d'ailes et des chants d'oiseaux l'enveloppaient tout le jour. C'était cette maison, l'ancien grenier à sel de la ville. Les murailles, infiltrées et encore transsudantes de la gabelle emmagasinée pendant des siècles, disparaissaient à tout moment sous le tourbillonnement de centaines d'oisillons, donnant un coup de bec au crépi salé, puis montant dans le ciel à perte de vue, puis plantant une seconde, planant puis redescendant, entouré de noirs bâtiments des circuits rapides de leur joie ailée. Et toujours, depuis l'aurore jusqu'au crépuscule, le tournoiement de ces vols qui gazouillaient. La maison était éveillée par une piaillerie aiguë, disant bonjour aux premiers rayons du soleil tombant sur la façade du levant. La même piaillerie disait bonsoir au dernier rayon s'en allant de la façade du couchant. Les jours de pluie, de ces chaudes et fondantes pluies d'été, on entendait de l'intérieur, bruit doux à entendre, un perpétuel foufou de plumes battantes contre les parois, un incessant petit martelage de tous les jeunes becs picorant à coups pressés l'humidité et l'alarme du mur. Les femmes, au milieu desquelles se trouvait Elisa, étaient, pour la plupart, des bonnes de la campagne, séduites et renvoyées par leur maître. Vous les voyez, ces épaisses créatures, dont la peau conservait, en dépit de la parfumerie locale, le hâle de leur ancienne vie en plein soleil, dont les mains portaient encore les traces de travaux masculins, dont les rigides boutons de sein faisaient deux trous dans la remusée, à l'endroit contre lequel il frottait. Une jupe noire au rein, une camisole blanche au dos, ces femmes aimaient à vivre les pieds nus dans des pantoufles, les épaules couvertes du fichu jaune affectionné par la fille soumise à la de la province. Chez ces femmes, aucune coquetterie, nul effort pour plaire, rien de cet instinct féminin, désireux, même chez la prostituée, d'impressionner, de provoquer une préférence, de faire naître un caprice, de mettre enfin l'apparence et l'excuse de l'amour dans la vénalité de l'amour. Non, seulement une amabilité banale où l'humilité du métier se confondait avec la domesticité d'autrefois et qui avait à la bouche, pour l'homme pressé entre les bras, le mot « monsieur » dans un tutoiement. Ni atmosphère de volupté, ni effluves amoureux autour de ces corps balourds, de ces gestes pâteaux. La ruée des femelles dans le salon, où elles se poussaient en se bousculant, montrait quelque chose de l'animalité inquiète et effarée d'un troupeau, et elles se hâtaient, le choix de l'une fait, de se rassembler, de se parquer en quelque coin reculé de la maison, loin de la compagnie et de la conversation de l'homme, et des êtres, pour la plupart, n'ayant pour ainsi dire rien de la femme dont elle faisait le métier, et dont la parole, libre et hardie, n'était même jamais érotique, des êtres qui paraissaient avoir laissé dans leur chambre leur sexe comme l'outil de leur travail. Toutes passaient les heures inoccupées de leur journée dans l'espèce d'ensommeillement stupide d'un paysan conduisant sous le midi une charrette de foin. Toutes, aussitôt qu'il y avait une lumière allumée, étaient prises d'envie de dormir ainsi que de vraies campagnardes qu'elles étaient restées. Toutes s'éveillaient au jour, cousant dans leur lit, trôlant dans leur chambre jusqu'à l'heure où la porte était ouverte. Beaucoup, nourris toute leur jeunesse de potée et de fromage, ne mangeaient de la viande que depuis leur entrée dans la maison. Quelques-unes voulaient avoir à table, à côté d'elles, un litre, disant que ce litre leur rappelait le temps où, toutes petites filles, elles allaient tirer le vin au tonneau. La grande distraction de ce monde était de parler patois, de gazouiller au milieu de rires idiots, où revenait le passé, le langage rudimentaire du village qui leur avait donné le jour. La moins brute de la compagnie était une grande fille à l'étroit front bombé, aux noirs sourcils reliés au-dessus de les deux yeux de gazelle, aux joues briquetées d'un rouge dénonçant un estomac nourri de cochonnerie, à la petite bouche accompagnée de fossettes ironiques, à l'ombre follette de cheveux tombant sur le sourire cerné de ses yeux et répandant dans toute sa physionomie quelque chose de sylvain et d'égaré. Chez la rustique et étrange créature, la fantasque déraison d'une santé de femme mal équilibrée éclatait à tout moment, en taquinerie violente, en caprice méchant, en acte d'une domination contrariante. Elle s'appelait de son nom de baptême Divine. La fille du Morvan avait eu l'enfance pillarde d'une petite voleuse des champs. Cette vie de rapine, dans les clos et dans les vergers, se mêlait à une curiosité amoureuse du ciel, à des attaches mystérieuses aux astres de la nuit, qui bien souvent la faisaient coucher à la belle étoile. Dans le pays superstitieux, On disait l'enfant possédé du diable. Elle vivait vagabondant, ainsi le jour et la nuit. Quand arrivait une diseuse de bonne aventure, une ancienne vivandière, quêtant avec un sac sur les grands chemins. Le beurre fondu, la confiture de carottes de la chaumière, passait dans la besace de la femme à laquelle, à la fin, divine donnait 15 livres de lard pour que la sorcière lui fît le grand jeu. La chose découverte avait valu à la jeune fille, toute grande qu'elle était déjà, une fessée d'ortie, si douloureuse qu'elle s'était sauvée de la maison paternelle. Dans la divine d'alors, oh, il était resté beaucoup de la petite Morvandaise. D'autrefois, sortait-elle? Il n'y avait pas de haie capable de défendre les pois, les chicots de salade qu'elle mangeait tout cru. La lune était-elle dans son plein? Son gré mal gré, elle faisait cligner les yeux à ses compagnes jusqu'à ce qu'elles eussent vu, dans le dessin brouillé de l'astre pâle et nettement vu, Judas et son panier de choux. Parmi ces femelles, la plupart originaires du Bassigny, Elisa portait dans sa personne la féminité que donne la grande capitale civilisée à la jeune fille élevée et grandie entre ses murs. Elle avait une élégante tournure, de jolis gestes. Dans le chiffonnage des étoffes légères et volantes habillant son corps, elle mettait de la grâce de Paris. Ses mains étaient bien faites, ses pieds étaient petits. La délicatesse pâlement rosée de son teint contrastait avec les vives couleurs des filles de la plantureuse Haute-Marne. Elle parlait presque comme le monde qui parle bien, écoutait ce qui se disait avec un rire intelligent, se répandait certains jours en une verve gouailleuse d'enfant du pavé parisien, étonnant de son bruit le mauvais lieu de la petite ville. Mais ce qui distinguait surtout Elisa, lui donnait là, au milieu de la soumission servile des autres femmes, une originalité piquante, c'était l'indépendance altière et séductrice avec laquelle elle exerçait son métier. Sous la brutalité d'une caresse ou sous l'insolent commandement du verbe, il fallait voir le redressement tout à la fois rageur et aphrodisiaque de l'être vénal qui, sottisant et coquettant et mettant le feu aux poudres avec la dispute de sa bouche et la tentation ondulante de son corps provocateur, arrivait à exiger du désir qui la voulait des excuses amoureuses et des paroles lui faisant humblement la cour. Elisa devenait la femme dont à l'oreille, et en rougissant, se parlaient les jeunes gens de la ville, la femme baptisée du nom de la Parisienne, la femme désirée entre toutes, la femme convoitée par la vanité des sens provinciaux. Monsieur et madame consultaient maintenant Elisa pour leurs affaires. Elle était le secrétaire qu'ils employaient pour écrire à une fille élevée dans un couvent de Paris. Elle prenait la plume pour répondre aux lettres du jour de l'an, commençant et se terminant ainsi. « Chers parents, qu'il me soit permis, au commencement de cette année, de vous exprimer ma reconnaissance pour la sollicitude continuelle dont vous m'entourez et les sacrifices que vous ne cessez de faire. Chers parents, soyez heureux autant que vous le méritez, et rien ne manquera à votre bonheur et à ma félicité. » Divine, qui depuis quelques semaines exerçait dans l'intérieur la petite tyrannie despotique d'une femme malade, dépitée de tomber au second plan, quittait la maison. Et devant la considération témoignée par madame à Elisa, ses compagnes descendaient naturellement à se faire des domestiques. Au moment du départ de Divine, un événement fortuit grandissait encore la position de la Parisienne. Elle avait la fortune de faire naître un coup de cœur chez le fils du maire de l'endroit. De ce jour, affichant à son cou, dans un grand médaillon d'or, l'image photographiée du fils de l'autorité municipale, Elisa conquérait dans l'établissement le caractère officiel de la maîtresse déclarée d'un héritier présomptif. Elle pouvait s'affranchir des corvées de l'amour. Son linge était changé tous les jours. Au lieu de la soupe que l'on mangeait le matin, elle prenait, ainsi que madame, une tasse de chocolat. Au dîner, elle buvait du vin de Bordeaux, du vin du fils de la maison, pour sa maladie. Un verger s'étendait derrière la maison. Aux premières tièdeurs du printemps, les femmes quittaient le salon pour habiter toute la journée le jardin, ne rentrant qu'à la nuit tombante. Les habitués étaient accueillis dans de petits bosquets de chèvrefeuilles, grimpés aux branches de vieux abricotiers en plein vent, sous lesquels ils buvaient du cassis, de la bière, de la limonade gazeuse. Là, parmi la floraison des arbres fruitiers, au milieu du reverdissement de la terre, sous le bleu du ciel, un peu de l'innocence de leur enfance revenait chez ces femmes dans la turbulence des bas enfantins. Le plaisir de petite fille qu'elle prenait à courir, à jouer, effaçait en elle l'animalité impudique, rapportait à leurs gestes de la chasteté, rajustait sur leur corps gaminant une jeune pudeur. Dans le jardin, ces femmes ne semblaient plus guère des prostituées, et les hommes, sans savoir pourquoi, se sentaient plus de retenue avec elles. Le verger, avec de la grande herbe jusqu'à mi-jambe, et ça et là dans l'herbe, des carrés de légumes pour la consommation de la maisonnée, laissait passer par endroits les vestiges d'un ancien parc dessiné par un lenôtre de province. Tout au fond, le long d'une ruelle, la sente de Péchina, séparant le clos de Grande Chennevière, d'où se levaient dans le chaud de l'été des senteurs capiteuses et troublantes, il restait encore debout le débris, plusieurs fois foudroyé, d'un labyrinthe planté de buis centenaires. Le fils de la maison, avant sa maladie, avait l'habitude, en ses loisirs artistiques, de tailler les survivants en manière de coq et de poule. Ces antiques arbres, aux formes à la fois ridicules et fantastiques, formaient un grand rond, et quand vint le mois de juin, on y dansa toute l'après-midi, les dimanches ainsi que cela avait lieu depuis des années. Le violonneux n'était point un musicien de la ville, mais un paysan d'un village voisin, qui était et l'ami, et le confident, et le conseiller, et l'homme d'affaires des dames de la maison. Une curieuse figure, ce vieillard passant pour vivre dans l'industrie de fabricateur d'huile de fène, connu sous le sobriquet de Gros Sou, et que l'on disait le fils naturel de l'abbé de Saint-Clair, le plus énorme bombancier, le plus intrépide chasseur de la contrée avant la Révolution. Et vraiment, Gros Sou semblait avoir en ses veines villageoises du sang du grand veneur ecclésiastique. On le citait comme le tireur et le pêcheur, destructeur du département. D'un canton, il connaissait, sous des noms par lui donnés, tous les lièvres, les attendait à tant de livres, les tuait l'un après l'autre. D'un bras de rivière, en dépit de ses 76 ans, plongeant une partie de la nuit, il prenait tout le poisson, saisi par les ouïes, dans ses retraites les plus profondes. Puis avait-il vendu pour 150, pour 200 francs de gibier ou de poisson, Monseigneur le braconnier, retiré dans l'arrière-salle d'une auberge hantée par les fines gueules de l'arrondissement, ordonnait au tambour de l'endroit de tambouriner, que Gros Sou donnait rendez-vous à ses amis. Et, deux ou trois jours, il tenait table ouverte, versant du champagne à tout venant. Dans sa jeunesse, Gros Sou était un fort rendiableur de filles. À 7 heures, il avait dételé, mais il aimait encore la société des femmes folles de leur corps, ainsi que les nommait le vieux passionné, se plaisant à leur contact sensuel, prenant une jouissance toute particulière à se faire conter leurs petites affaires, à les confesser, à les conseiller, jouant auprès d'elles une espèce de rôle de directeur, grâce à l'onction paysanesque de sa parole, grâce à l'empire qu'ont sur toutes les femmes les hommes qu'elles sentent demeurer des amants de leur sexe. L'original vieillard, qui avait une aptitude singulière à jouer de tous les instruments, arrivait le dimanche avec son violon, un gosier intarissable, un entrain, un enlèvement des gens, qui mettait bientôt en branle le monde. Toute la journée, son violon faisait rage, et la verve de sa parole trouvant des stimulants drôlatiques, il faisait, par ma foi, 8 heures durant, bonnement sauter ses hommes et ses femmes, ainsi que d'honnêtes filles et d'honnêtes garçons dans un bal de campagne. Il ne venait jamais sans apporter quelques plats de poisson ou de gibier, qu'il fricotait lui-même, comme mon chef de grande maison ne sut jamais cuisiner. Les jeunes gens de la ville, friands de sa cuisine, des bons comptes qu'il faisait, la fourchette en main, de l'originalité qui se dégageait de ce reste de grand seigneur tombé en un homme de la nature, de l'amusement que le septuagénaire galantin et rustique apportait à un repas, les jeunes gens de la ville étaient très nombreux. En ce jour du dimanche, au milieu de ces femmes tout heureuses par lui et qui lui faisaient fête, distribuant en roi de la table des paroles basses à l'oreille de celle-ci, de celle-là, le paysan gros sou semblait revivre dans la peau de son très illustre père, président à un souper d'impurs. La prostitution de la petite ville de province diffère de la prostitution des grands centres de population. Le métier pour la fille dans la petite ville a une douceur relative. L'homme s'y montre humain à la femme. Là, l'heure est plus longue pour le plaisir et la hâte brutale commandée par l'activité de la vie des capitales n'existe pas. Une débauche plus naïve, plus sensuelle, moins cérébrale, moins hantée de lectures cruelles ne recherche point dans la Vénus physique l'humiliation et la douleur de la créature achetée. Et le public, demandant en province moins de honte à la prostituée, la prostitution, en ses maisons à jardin, perd de son dégoût et de son infamie pour se rapprocher un peu de la vénalité galante, ingénument exercée dans la molle indulgence des peuples primitifs, sur des terres de nature. La prostitution. D'ordinaire à Paris, c'est la montée au hasard par une ivresse d'un escalier bâillant dans la nuit, le passage furieux et sans retour d'un prurite à travers la mauvaise maison, le contact colère comme dans un viol de deux corps qui ne se retrouvent jamais. L'inconnu entrait dans la chambre de la fille, pour la première et la dernière fois, n'a pas souci de ce que sur le corps qui se livre son érotisme répand de grossier, de méprisant, de ce qui se fait jour dans le délire de la cervelle d'un vieux civilisé, de ce qui s'échappe de féroce de certaines amours d'hommes. Dans la petite ville, le passant est une exception. Les gens admis dans la maison sont presque toujours connus et condamnés, même au milieu de l'orgie, à un certain respect d'eux-mêmes dans leur rapport avec les filles. Puis les hommes qui frappent à la porte se présentent dans des conditions autrement et différemment amoureuses que les hommes des grandes villes. En province, le rigorisme des mœurs et la police des cancans défendent dans la jeunesse la maîtresse, la vie commune avec la femme. La maison de prostitution n'est pas absolument pour le jeune homme le lieu où il va rassasier un besoin physique. Elle est avant tout pour lui un libre salon dans lequel se donne satisfaction le tendre et invincible besoin de vivre avec l'autre sexe. Ce salon devient un centre où l'on cause, où l'on mange ensemble, où se noue entre ces jeunesses d'hommes et de femmes le lien d'innombrables heures passées à jouer au piquet. Et à la longue, avec l'ennui et l'inoccupation de la vie provinciale, les filles les plus indignes, sortent de leur rôle d'humbles machines à amour, se transforment en des espèces de dames de compagnie, associées à l'existence paresseuse des jeunes bourgeois. Cette fréquentation de tous les jours fait naître chez celui-ci ou celui-là, pour celle-ci ou celle-là, des atomes crochus, des habitudes, des fidélités qui ressemblent à des amours réglés. De vraies passions, tenues de trop court par l'avarice terrienne de vieux parents de 100 paysans, pour se charger de l'existence d'une femme, se voient condamnées à l'aimer là. Le cas n'est pas rare. de déniaisées qui restent jusqu'au jour de leur mariage, reconnaissant à la femme qui les a débarrassées des prémices de leur puberté. Par toutes ces causes, et il faut le dire aussi au bout de ce compagnonnage honteux de ces jeunes hommes avec monsieur et madame, de l'immixtion un peu salissante dans les choses et les secrets de la maison, de ce long spectacle démoralisateur du commerce de l'endroit, il arrive que la femme payée prend sur l'homme qui la choisit toujours l'espèce de domination attachante d'une femme qui se donne, et que la prostituée de petite ville échappe à la dégradation de son état et triomphe souvent de l'impossibilité de pouvoir, semble-t-il, être aimée avec le cœur.